Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. Du Big Bang à nos jours, on peut dire qu'il s'en est passé du temps. 13,7 milliards d'années pour être exact. En tout cas, c'est l'âge que les scientifiques donnent à l'univers. Depuis janvier, on vous propose de résumer ces 13,7 milliards d'années d'histoire de l'univers en les racontant à l'échelle d'une année. Le mois dernier, nous vous avions compté les premiers instants de l'univers à partir du fameux Big Bang, jusqu'à la formation de notre planète Terre. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir la suite des débuts de notre planète jusqu'à nos jours. Pour faire ce voyage dans le temps, on retrouve notre capitaine de bord, Jean-Philippe Godard, médiateur scientifique à Altec. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Camille.
Alors, 13,7 milliards d'années, ce n'est pas forcément facile à se représenter. Pour que ce soit un peu plus parlant, nous nous sommes inspirés, comme le mois dernier, du calendrier cosmique de l'astronome Carl Sagan pour vous raconter ces différents événements comme si les 13,7 milliards d'années correspondaient à une année entière. Le départ est donné par le Big Bang le 1er janvier à minuit et notre présent est représenté par le 31 décembre à minuit lui aussi. Nous nous sommes quittés lors de la dernière chronique aux alentours du 14 septembre sur notre calendrier cosmique, au moment où naît notre planète Terre.
Eh oui, en effet, il faut attendre 9 mois sur notre calendrier pour voir enfin apparaître notre planète Terre, planète qui, on peut dire, n'a rien d'accueillant. Il faut imaginer une surface recouverte d'océans de lave et de roches en fusion avec une atmosphère qui est totalement irrespirable. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une autre protoplanète qu'on a nommée Theia, qui fonce droit sur la Terre, elle a une vitesse très élevée et qui va rentrer en collision avec la Terre. Et là, il y a des milliards de tonnes de matière qui vont être éjectées dans l'espace suite au choc, ce qui va donner lieu, on le pense, à naissance à notre Lune.
Notre satellite naturel. Alors, vous le disiez, à ses débuts, la Terre ne ressemblait pas encore à la planète bleue que l'on connaît actuellement. Une couleur d'ailleurs qui lui est donnée grâce aux océans qui se retrouvent sur une bonne partie de sa surface. D'où vient justement cette eau ?
Alors, après sa formation, la Terre elle va subir pendant 200 millions d'années à peu près des pluies de météorites très importantes qui vont s'abattre à sa surface. Cette période très mouvementée a été un mal pour un bien puisque c'est grâce à ses corps célestes qui contiennent de minuscules gouttelettes d'eau que des océans vont petit à petit se former sur la surface de la Terre. En plus de ces pluies de météorites, la Terre subit également de grandes marées à cause de la Lune, qui était beaucoup plus proche de la Terre qu'aujourd'hui. Et on sait d'ailleurs avec certitude que la Lune continue encore aujourd'hui à s'éloigner de la Terre petit à petit. Donc ça, c'est grâce à des lasers qui sont pointés vers la Lune, qui mesurent avec précision les distances qui nous séparent de notre satellite naturel.
Alors la Terre va ensuite se stabiliser petit à petit. On est à ce moment-là aux alentours du 25 septembre sur notre calendrier cosmique et va se produire sur Terre l'un des plus grands mystères de l'univers.
Oui, alors notre planète Terre, elle est alors recouverte d'océans, les premiers continents se forment et toute la surface de la planète est balayée par d'immenses tempêtes. Alors c'est dans cette espèce de grosse cocotte minute qui va se produire il y a environ 3,6 milliards d'années, un mystère qui nourrit encore aujourd'hui différentes théories scientifiques, c'est l'apparition de la vie sur Terre.
Alors est-ce que l'on sait aujourd'hui comment et à partir de quoi la vie est née sur Terre ?
Alors, les scientifiques pensent que la vie est apparue grâce à différents éléments qui se sont formés lors du Big Bang ou dans les étoiles. À partir de ces éléments, ces premiers atomes, des briques élémentaires propres aux vivants ont été synthétisées. Puis ils se sont assemblés pour donner les premières molécules, des molécules dites organiques. Donc par interaction chimique, ces molécules, on pourrait dire prébiotiques, qui se sont associées entre elles pour former des boules qu'on a appelées des coservas. Et petit à petit, ces coservas ont acquis un métabolisme pour produire de l'énergie, de l'ADN, pour transmettre leur organisation, etc. Alors on ne sait pas encore exactement comment ces mécanismes d'évolution ont eu lieu, mais en tout cas, c'est ce qui a amené aux premières formes de vie sur Terre et aux premières cellules vivantes.
Alors évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus sur les mécanismes qui ont amené à l'apparition de la vie sur Terre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à réécouter notre chronique de février 2019, qui est bien sûr à retrouver sur le site site de Radio B. Jean-Philippe, on est donc près de 10 milliards d'années après le Big Bang. La vie vient d'apparaître sur Terre, en tout cas dans les océans sous forme de cellules simples. On est encore bien loin des organismes complexes.
Effectivement, pendant plusieurs millions d'années, la vie va rester sous une forme relativement simple, avec des cellules vivantes qui baignent dans des océans primitifs en s'organisant en colonies. Voilà. Donc, aux alentours du 1er décembre sur notre calendrier cosmique, on va assister à un événement extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la grande oxydation ou grande oxygénation. Autrement dit, c'est la formation d'une atmosphère terrestre enrichie en dioxygène.
Ouais, et puis ce phénomène de grande oxydation, en soi, c'est même une crise écologique, mais qui va être bénéfique pour la suite de notre histoire.
Oui, tout à fait. Concrètement, il y a des organismes vivants qui sont appelés cyanobactéries, qui utilisent le CO2 qui est contenu dans l'atmosphère pour extraire le carbone dont elles ont besoin pour leur développement. Mais cette opération va dégager énormément de dioxygène, un déchet toxique pour ces cyanobactéries. Et cet apport massif d'oxygène va déclencher une véritable crise écologique à cause de la toxicité pour les organismes anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, qu'ils produisaient. Mais ça va aussi permettre l'émergence d'une vie qui, elle, a besoin d'air, une vie aérobie, qui va réussir à s'adapter à ce nouvel environnement.
Et puis cet oxygène libre, du coup, il est aussi à l'origine de la formation de la couche d'ozone, qui a pour effet d'absorber la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet et qui va donc permettre à la vie de se diversifier encore plus.
Oui, alors là, on va assister à une véritable accélération de l'histoire sur le mois de décembre, notamment à partir de cette grande oxydation qui va permettre à la vie de se développer, de foisonner, de donner naissance à tout un tas de formes de vie différentes. C'est dans ce contexte qu'on assiste le 16 décembre sur notre calendrier à l'explosion du Cambrien. Les scientifiques parlent d'explosion car c'est à ce moment qu'apparaissent de manière assez soudaine à l'échelle géologique la plupart des grands embranchements actuels d'organismes dits pluricellulaires, c'est-à-dire constitués de plusieurs cellules.
Des organismes plus complexes. Pourquoi cet événement d'explosion cambrienne, il est si important dans l'histoire de la biodiversité ?
Alors, tout simplement, c'est parce que c'est en l'espace de quelques dizaines de millions d'années que la quasi-totalité des grands plans d'organisation connus actuellement vont apparaître. Avant cette explosion, la plupart des organismes étaient simples, composés de cellules individuelles, parfois regroupées sous forme de colonies. Et à partir du Cambrien, la vie va se diversifier d'une manière beaucoup plus rapide. Et là, pour attention, on va y aller très vite, mais sur notre calendrier cosmique, ça s'enchaîne très rapidement. Le 17 décembre, on a l'apparition des premiers invertébrés. Le 19 décembre, là, c'est les premiers poissons et les autres vertébrés qui apparaissent. Le 20 décembre, c'est l'apparition des plantes et la colonisation de la terre ferme. La vie, elle sort de l'eau. Le 22 décembre, là, on a les premiers insectes volants et les amphibiens. Le 23 décembre, les premiers arbres et les reptiles. Le 25 décembre, on a les premiers dinosaures. Le 26 décembre, les premiers mammifères. Et enfin, le 27 décembre, les premiers oiseaux.
Bulle de science. Alors, en l'espace d'une dizaine de jours, du coup, vont apparaître les différentes formes de vie, ce qui est très court sur notre calendrier cosmique, on le rappelle. Mais dans les faits, cela fait environ 375 millions d'années à l'échelle terrestre, ce qui est néanmoins relativement rapide à l'échelle de l'histoire de l'univers. Il ne faut pas oublier non plus que cette biodiversité, bien sûr, elle n'est pas figée une fois qu'elle apparaît. Il y a notamment le mécanisme de l'évolution qui va donner naissance à de nouvelles espèces et qui va aussi en faire disparaître d'autres.
Eh bien oui, les organismes évoluent constamment. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que pendant ces 3,6 milliards d'années qui nous séparent entre l'apparition de la vie sur Terre et notre ère, il va y avoir des crises majeures qui vont provoquer l'extinction massive d'espèces. Alors l'une des plus connues, c'est bien sûr la crise du Crétacé tertiaire, qui va mener à la disparition d'une partie des dinosaures. Elle a lieu, cette grande crise, le 30 décembre sur notre calendrier cosmique, soit 5 jours seulement après leur apparition sur le calendrier. Mais il y a des crises encore plus graves. Une extinction massive comme celle de la fin de l'ère primaire, il y a 250 millions d'années, où là, c'est 96% des espèces vivantes sur Terre qui vont disparaître. Et donner suite après, notamment, permettent l'apparition d'une grande partie de la flore, des conifères qui remplacent les flores à fougères qui existent alors.
Ouais, vous le dites justement, ces deux crises, elles font partie des 5 grandes crises qui ont été identifiées par les scientifiques depuis l'apparition de la vie sur Terre. Ce sont des phénomènes qui paraissent comme ça effrayants, à juste titre, hein. Quand on essaye par exemple d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la Terre si 96% des espèces disparaissaient aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi retenir, et vous l'avez bien dit, c'est cette notion de remplacement, d'opportunité. Ces grandes crises qui ont marqué l'histoire de la Terre, ce sont aussi des opportunités pour certaines espèces de se développer davantage et de se diversifier encore plus qu'avant. Ça a notamment été le cas pour les mammifères grâce à cette fameuse crise crétacé-tertiaire qui a vu disparaître notamment les grands dinosaures, hein, les sauropodes.
Oui, c'est certain, c'est grâce à cette opportunité, ces niches écologiques qui sont libérées, que les mammifères vont pouvoir se diversifier de manière plus rapide et donner un tas d'espèces différentes, dont les premiers hominidés, qui donneront bientôt les premiers hommes.
Et c'est là où, du coup, le calendrier cosmique prend tout son sens, puisque si le Big Bang a eu lieu à minuit le 1er janvier, il faut attendre d'arriver au dernier jour de l'année, le 31 décembre, pour voir apparaître notamment les premiers cétacés et bien sûr les primates.
Eh oui, en effet, à partir de maintenant, la suite de l'histoire, elle va se raconter à l'échelle d'une seule journée, le 31 décembre. Alors, juste pour je vais préciser qu'à cette échelle, une heure sur notre calendrier cosmique équivaut en réalité à 1,5 million d'années. Donc, on pourrait dire, on est le 31 décembre et à 10 apparaissent les cétacés et les primates. À 18 heures, c'est l'apparition des mammifères géants. À 19h30, on a l'apparition du premier hominidé qu'on appelle Toumaï. Il apparaît au Tchad. À 21h, la diversification des hominidés en différentes espèces, donc on a les australopithèques, les paranthropes, les kinyanthropes, voilà, toutes ces espèces, elles ont disparu sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais à 23h, on sait qu'apparaît en Afrique la première espèce du genre humain, Homo habilis, donc l'homme habile. Habile pourquoi ? Parce que c'est le premier à qui on attribue la fabrication d'outils. Ensuite, il y a d'autres espèces humaines qui viendront, qui vont apparaître, telles que Homo erectus, qui maîtrisera le feu et qui sortira d'Afrique pour rejoindre l'Europe et l'Asie. À 23h50, Homo erectus domine le feu, il sait créer du feu. À 23h56, apparaît Homo sapiens en Afrique, notre espèce. À 23h58, on est à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Donc, l'Homo sapiens est sorti d'Afrique à son tour. Il arrive en Europe. Il va également partir peupler les Amériques. Et c'est la réalisation des premières sculptures et des premières peintures.
L'histoire des hommes, elle est au final extrêmement récente au regard de l'âge de l'univers, puisque finalement, elle commence à s'écrire seulement à partir des toutes dernières minutes de ce calendrier cosmique.
Oui, alors les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, elles s'écrivent même qu'à partir de minuit, moins une minute sur ce calendrier cosmique, avec une échelle d'environ 400 ans écoulée pour chaque seconde du calendrier. Donc à 23h59 minutes et 20 secondes, Homo sapiens réalise les premières peintures dans la grotte de Lascaux. En 10 secondes après, il invente l'agriculture. À 23h59 minutes et 47 secondes, il invente l'écriture. Une seconde après, c'est la naissance des premières grandes civilisations, notamment en Mésopotamie. À minuit moins 10 secondes, on a la construction des pyramides égyptiennes. À 23h59 et 53 secondes, là, on a la naissance des grandes cités comme Athènes ou Rome. À 5 secondes avant minuit, on a l'invention de la démocratie en Grèce et l'apogée de l'Empire romain. Une seconde après, c'est l'effondrement de l'Empire romain. Et 23h59 minutes et 58 secondes commence la Renaissance.
Ouais, et là, du coup, on entre désormais dans la toute dernière seconde de notre calendrier cosmique. Et on se rend compte que c'est finalement dans cette dernière seconde, cette ultime seconde avant minuit, que tient toute l'histoire moderne de l'humanité. Les révolutions politiques, scientifiques et industrielles, les deux guerres mondiales, les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'invention d'Internet, etc., etc., jusqu'à finalement aujourd'hui. Jean-Philippe, le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est finalement bien peu de choses par rapport à l'histoire de l'univers.
Oui, et il y a de quoi sérieusement relativiser l'importance que nous nous donnons aujourd'hui par rapport à l'histoire de l'univers. En même temps, ça veut dire aussi qu'il aura fallu que 3 heures depuis les premiers hominidés pour bâtir une société humaine et qu'il aura fallu qu'une quinzaine de secondes sur le calendrier cosmique pour inventer l'écriture, bâtir des civilisations, explorer le monde et envoyer des hommes dans l'espace.
Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du futur ? Est-ce qu'on peut déjà prédire plus ou moins comment l'histoire va se poursuivre ?
Alors, j'ai oublié ma boule de cristal, donc c'est toujours difficile de faire des prédictions. Mais on va dire que l'étude du passé, l'évolution des autres étoiles par exemple, permet aux scientifiques d'imaginer différents scénarios possibles. Par exemple, sur la manière dont notre Soleil va évoluer au fil des milliards d'années qui lui restent. On sait actuellement que le Soleil est âgé d'environ 4 milliards et demi d'années et qu'il lui reste quasiment autant à vivre. Et progressivement, il va se refroidir et s'étendre pour devenir une géante rouge. Donc, on dit, il va expulser ses couches externes et il va devenir un cadavre stellaire. Le noyau, il restera bientôt plus que le noyau de notre Soleil qu'on va appeler une naine blanche.
Mmh. Alors, même si ça doit se passer dans 5 milliards d'années, c'est quand même pas très joyeux. Du côté du reste de l'univers, est-ce que c'est un petit peu plus optimiste ?
Alors, l'étude de l'histoire de l'univers permet aux scientifiques de proposer plusieurs scénarios sur le destin de l'univers. Alors, je ne vais pas toutes les aborder. Alors, l'une des hypothèses les plus catastrophiques, c'est celle qu'on appelle du Big Crunch, une sorte de Big Bang inversé, hein, où l'expansion de l'univers s'arrêterait tout d'un coup pour laisser place à une phase de contraction. Donc, toute la matière qui s'est répandue dans l'univers s'effondrerait sur elle-même. Et l'univers pourrait donc revenir à son état d'origine. Mais alors cette hypothèse est remise en cause par l'existence d'une possible énergie sombre qui éviterait à l'univers de s'effondrer sur lui-même. Alors il y a une autre hypothèse qui est avancée par les scientifiques, qui est celle du Big Freeze. Donc, c'est-à-dire que l'univers va continuer son expansion, les éléments vont s'éloigner de plus en plus les uns des autres, et cela de manière... Enfin, à l'infini, et jusqu'à ce que toute cette énergie disparaisse et que les matières soient suffisamment éloignées les unes des autres pour qu'il n'y ait plus d'interaction possible. Donc, il y aurait une sorte de mort thermique de l'univers. Les étoiles finiront par s'éteindre et les galaxies seront tellement éloignées les unes des autres et tellement distendues qu'elles finiront isolées. Mmh. Donc, l'univers serait finalement pas anéanti, mais ça va se transformer en un lieu obscur, froid et quasiment désert.
Ça donne pas trop envie. Heureusement, et c'est sans doute ce qu'il faut retenir de notre calendrier cosmique, si l'époque moderne se résume en une seule seconde de l'histoire et celle de toute l'humanité en moins de 3 heures, cela veut aussi dire que la fin programmée de notre planète n'est prévue, ou en tout cas de notre système solaire, n'est prévue que dans 4 mois sur notre calendrier cosmique, soit 5 milliards d'années d'histoire de l'univers qu'il reste encore à écrire. Merci Jean-Philippe Godard.
Merci Camille.
On se retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique Bulle de Science sur Radio B. Cette fois-ci, on parlera des animaux moches et mal aimés. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt!